Et puis nous voici en compagnie de François Happ. François Happ qui a donc traduit 15 Serial Killer de Harold Jaffe, qui était sorti au mois de mars-avril aux éditions Cambourakis. François Happ qui est professeur de littérature américaine à l'université d'Orléans. Oui, Carl, tu as quelque chose ?
Un morceau de musique peut-être ?
Un morceau de musique, mais bien entendu, Carl, j'ai oublié ton morceau de musique. Et puis c'est même pas un morceau
plus,
de
musique. C'est même pas un morceau.
En plus, c'est même pas un morceau de musique, mais bien entendu, Carl, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause, Carl. Et là, je vous ai donné l'eau à la bouche avec François Happ.
Quel suspense !
Quel suspense ! Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter Bernard Hetzig. Bernard Hetzig a été interviewé ici même pour les poèmes Partition 10. Un petit extrait, bien entendu, poème Partition 10 et quelque chose d'assez. C'est long. Allons-y pour Bernard Hetzig.
Ah, et surtout que... Mais dites-moi... Non. Vraiment? Tiens. J'aurais cru... Mais alors... Seulement, c'est-à-dire... Enfin... Ou plutôt... Car enfin... Oh, par exemple... Tentez plus que... Bien sûr. Après tout... N'est-ce pas? Encore que... Évidemment. Toutefois, je sais. Or donc... Après dire... Car alors, mais alors, non. C'était pas tout, du tout, du reste, du tout, tout, car si ce n'était, car, oh, je vous assure, mais, non, vraiment, n'y pensez plus, néanmoins, justement, d'un autre côté, de grâce, comme vous y allez, mais encore, eh bien, allons donc, si, sans être que tout, bien que, l'évidence, mais, par exemple, enfin, je vois, oui, non, si, je voulais dire, croyez-vous, c'est-à-dire, nous y voilà. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, tout de même, à peine, au juste, à fortiori, qui sait. Pourtant, bien sûr, mais, je veux dire que... Mais alors, peut-être, aucun doute. Cependant, oui, après tout. Pourquoi? Eh bien... Enfin, vous n'y pas. Pourquoi? Mais ce serait bien entendu. Et puis, imaginez... Oh, absolument. Allons donc. Pourtant, je sais... Croyez-vous, le pourrait vice faire enverrait con, quoique, bien qu'en effet, car, ah, par exemple, une image insupportable, qu'est-ce que, inévitable, qui, d'un autre côté, justement, encore faudrait-il, et comment, sinon, et comment donc, parce qu'alors, tiens, absolument, irrésistible, vos derniers mots, mais voyons, et précisément, je veux dire, c'est possible, sinon probable, toutefois, oh, n'est-ce pas, certainement, mais alors, rien, comment. Mais enfin, peut-être, enfin, évidemment, allons donc. Non, je suis, allons donc. Et puis, vraiment, oui. Non, mais vraiment, quoi? Qu'est-ce? Mais oui, qui fait? Attends, mais après tout, parfaitement. Sinon, mais alors si, justement, mais dites-moi, justement, car, d'un autre côté, ne serait-ce que, enfin, tout de même, enfin, ou plutôt, croyez-vous, sinon ce serait, bien entendu, pourquoi? Je sais, bien sûr, mais, il n'y a pas autant qui puis-je ni pour cette... Allons, n'êtes pas que... Ah, n'insistez pas, mais enfin ce serait... Mais sans doute, comment? Bien sûr, après, noir sur blanc, impensable, inévitable, tout est là. Enfin, oui, je sais, savez-vous, à moins, je sais bien. Alors, à plus forte raison, si, je ne sais pas, vous voyez, je veux dire, il n'y a rien à comique, nullement. Je trouve grand bien vous, je voulais dire, erreur. Mais enfin, comme, parce qu'alors, inévitablement, cela change tout, n'exagérons un peu, peut-être, et encore, si peu... Justement, tout est là, en partie. J'y pensais, c'est possible. Quelle chance. Dans un sens, avant, nous y voilà. Ne dites pas qui puisse. Oh, il suffit du calme. Pourquoi? Arthur, vous l'avez nullement. Allons donc, où en êtes-vous? Tout bien pesé. Ah, il faut s'y faire. S'y tenir. Complet silence. Enfin,
l'émission littérature, Radio Campus Orléans 88.3, de retour avec François Happ. Et donc, cette première question, qui est Harold Jaffe?
Eh bien, Harold Jaffe est un écrivain américain, donc contemporain, bien vivant, qui continue à écrire, qui n'est pas véritablement ce qu'on pourrait appeler un jeune écrivain, puisqu'il a, je crois qu'il a passé 70 ans quand même, et qui a à son actif un certain nombre de textes, de publications. Il s'était fait remarquer par son tout premier livre, déjà. Certains diront peut-être que d'ailleurs c'était le meilleur, mais bon, ça c'est une affaire de goût, qui s'intitulait Maul's Pity, et qui était peut-être plus traditionnel, c'est-à-dire qu'il a abandonné, d'ailleurs lui-même ne parle pratiquement jamais de ce premier roman, il préfère se concentrer sur ce qu'il fait maintenant, qui est une autre forme d'écriture, peut-être moins classique, moins traditionnelle. Donc c'est un écrivain américain, je disais, et qui est, comme beaucoup d'écrivains américains d'ailleurs, également professeur de littérature à l'université, dans l'université de Californie. Voilà, il enseigne la littérature comparée, c'est un très grand connaisseur de batailles, ces gens-là, Saad.
Il y a une citation d'ailleurs de Bataille, il me semble.
Tout à fait, oui. Il a placé en exergue une phrase de Bataille. Donc Bataille, Saad sont ses références qui collent assez bien d'ailleurs avec ce qu'il a fait dans ses 15 Serial Killers. Et donc il enseigne aussi, et ça aussi c'est très fréquent dans les universités américaines, il enseigne ce qu'on appelle creative writing, c'est-à-dire des ateliers d'écriture pour apprentis écrivains. Voilà, donc brièvement brossé le portrait de Harold Jaffe.
Alors, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet avec 15 Serial Killers, puisque c'est ce qu'on a actuellement traduit de lui en français.
Mais je crois que c'est la seule, effectivement, c'est la seule œuvre et le seul texte qui a été traduit en français. Il en a eu... D'ailleurs, vous parliez de Claro tout à l'heure. Il me semble que c'est même Claro qui avait traduit un autre texte, il y a déjà quelques années, de Jaffe, et que pour des raisons, disons, propres à la maison d'édition, finalement, le livre a été traduit. C'est-à-dire que le texte français existe, mais il n'a pas été publié. Je crois que c'est une affaire de directeur de collection qui est parti, qui a quitté, et puis son successeur n'a pas souhaité mener le projet jusqu'à son terme. Et donc le livre n'est jamais paru, ce qui rend Harold Jaffe d'ailleurs un petit peu amer.
Sa réception en France, du coup.
Oui, bien sûr, parce que il est très, évidemment, il est très demandeur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est assez peu lu aux États-Unis. Il ne faut pas se le cacher. Comme beaucoup d'écrivains américains contemporains qui justement essaient de sortir d'une littérature codifiée, traditionnelle, classique. Ceux qui garnissent la liste des best-sellers que l'on connaît. Donc il essaie de faire quelque chose de différent, évidemment quelque chose qui va un peu à rebrousse-poil de ce qui se fait habituellement et qui ne touche finalement qu'un public, disons, assez restreint.
Est-ce que c'est le même niveau de lecture que l'expérimentation littéraire française ? Alors, qui est aussi très peu lu. Enfin, on peut donner des chiffres. Ça se lit ça se vend à moins de 1000 exemplaires.
Hein. Oui, je crois que c'est de cet ordre-là.
C'est de cet ordre-là aussi aux États-Unis.
Tout à fait. C'est de cet ordre-là. C'est une presse, je crois, la presse qui publie le texte original, pas seulement celui-ci d'ailleurs, mais d'autres textes de Jaffe. C'est une presse qui s'appelle Raw Dog, qui est une petite presse, une petite maison d'édition qui publie justement essentiellement des auteurs, on dirait nous, confidentiels. Mais il faut se replacer dans le contexte américain, qui est un pays immense et qui compte, je parlais tout à l'heure des ateliers d'écriture, qui compte des milliers, probablement même des dizaines de milliers d'écrivains, petits écrivains, très peu connus, et qui arrivent à se faire publier par ces petites presses, presque à la limite de ce qu'on appelait autrefois le underground, c'est-à-dire des presses qui vraiment travaillent et qui tournent avec effectivement quelques centaines, maximum quelques milliers d'exemplaires vendus.
Oui, c'est ce qui se passe à peu près en France. On peut prendre le cas des éditions Aldante, par exemple, en poésie expérimentale. C'est vrai que si ça se vend déjà à 200 ou 300 exemplaires, c'est déjà un exploit. Quoi.
Sauf qu'aux États-Unis, le vivier des lecteurs potentiels est quand même différent. C'est quand même une autre échelle. Mais c'est vrai que ces écrivains ont du mal à se faire une place parce que, évidemment, il y a des gens beaucoup plus installés, beaucoup plus connus, les DeLillo, le Pynchon dont vous parliez tout à l'heure, qui sont quand même des grands classiques, des sortes de monuments dans le paysage culturel américain, qui est déjà restreint au départ, puisque les Américains qui lisent, finalement, ne sont pas si nombreux que cela.
Parce que le Pynchon, là, en fait, c'est vraiment une... une star aux États-Unis même.
C'est-à-dire, c'est une star...
Parce que c'est quand même super difficile, enfin, c'est énorme, c'est...
Tout à fait. Pynchon, alors, il est star aussi en partie... bon, évidemment, c'est un immense écrivain, un grand talent, dès ses premiers livres, enfin, The Crying of Lot 49, ou en français, Vente à la criée
du Lot 49.
Du Lot 49. Gravity's Rainbow, l'arc-en-ciel de la gravité, qui est son grand roman, qui l'a installé vraiment comme le grand, l'un des grands écrivains contemporains américains. Sa notoriété est aussi en grande partie due au fait qu'il est absolument invisible, c'est-à-dire que personne ne sait qui il est, personne ne sait où il est. Personne ne sait s'il vit encore. Alors il y a des légendes qui courent sur Pynchon, comme elles ont couru et comme elles continuent à courir d'ailleurs sur Salinger, autre grand écrivain américain des années 50-60, qui a complètement disparu de la circulation. Enfin, lui, on sait où il vit, hein, mais disons, ce sont des gens qui refusent tout contact avec le monde médiatique. Ils refusent les interviews, la télévision, on n'en parle pas, évidemment. Même quelqu'un comme DeLillo refuse catégoriquement d'aller à la télévision. Il accepte des interviews de journalistes ou avec des critiques, mais c'est tout. Et donc ce Pynchon s'est formé une sorte de... Enfin, il y a le mythe Pynchon, je crois, qui joue beaucoup dans sa notoriété. C'est une sorte de mystère. Parmi les légendes, les histoires qui courent, on dit non, Pynchon n'existe pas. C'est un collectif d'écrivains qui a inventé Pynchon. On a dit la même chose sur Salinger. Et donc, tout ça pour revenir à Jaffe.
Voilà, ça, c'est les grandes stars. Voilà, et du coup, Harold Jaffe n'a pas beaucoup de place.
À se faire une place dans ce paysage quand même dominé par des gens comme DeLillo, Pynchon, pour les écrivains sérieux. Et puis alors, pour les peut-être moins sérieux, mais aussi également lu, et peut-être même encore plus lu, les Michael Crichton, Mary Higgins Clark, ou tous ces gens qui écrivent des best-sellers.
Alors, 15 Serial Killers d'Harold Jaffe, il y a une structure, il y a une manière de faire. Expliquez-nous comment ça fonctionne, 15 Serial Killers.
Alors, donc, comme le titre l'indique, il a pris 15 tueurs en série américains qui ont... Alors, américains, avec quand même une petite réserve, parce que justement, ils ne sont pas tous américains. Mais disons, pour la plupart, américains, puisqu'il y a ajouté le Carlos, le terroriste international. Et puis, alors là, bon, beaucoup plus ironique, il a ajouté Henry Kissinger. Ne correspond pas tout à fait au portrait que l'on se fait traditionnellement du serial killer tel qu'on l'a vu dans Le silence des agneaux ou d'autres films de ce genre. Donc il a pris 15 tueurs en série, donc avec ses réserves là, et en fait il raconte leur parcours, leur vie, alors de façon différente, c'est-à-dire que le style et la technique narrative n'est jamais la même. Il varie l'écriture de l'histoire. Alors parfois c'est le tueur lui-même qui raconte sa propre histoire, alors qu'il est mort en fait, puisqu'il a été exécuté. Je parle de Ted Bundy. Ou alors, ce sont deux personnes, enfin plutôt deux voix anonymes. On ne sait pas qui sont ces voix. On ne sait pas si c'est un homme et une femme, deux hommes, deux femmes qui se parlent. Alors, il y a des questions-réponses, et à travers ces gens échangent, à travers ce qu'ils se disent, se construit l'histoire du tueur en série en question. Et donc, ce sont des tueurs en série qui, pour la plupart, sont tous très connus aux États-Unis, qui ont pour la plupart un site internet, même voire plusieurs sites internet, où on peut trouver toute leur histoire, toutes sortes de documents sur ces tueurs en série, qui aux États-Unis, et c'est un peu ce qui a suscité ce livre, ce qui a poussé Harold Jaffe à écrire ce livre, ce sont des icônes aux États-Unis, les tueurs en série. Ce sont des gens très célèbres, comme des stars de cinéma. ou de la chanson.
Oui, c'est ce que vous écrivez dans votre préface.
Tout à fait.
Et juste après avoir écrit ça, vous parlez d'un peu de cette théorie fictionnelle qui pourrait englober ce livre-là et d'autres de Harold Jaffe. C'est le terme de, enfin, l'expression de docu-fiction. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, docu-fiction ou fiction documentaire.
Oui.
Alors, voilà, qu'est-ce qu'il entend Harold Jaffe par docu-fiction ?
Oui, alors tout d'abord, il revendique le mot lui-même, docu-fiction, qu'il aurait fabriqué, dit-il, d'après les docu-poèmes d'un écrivain d'Amérique centrale. Bon, alors, nous, ça ne nous paraît pas un mot absolument original, docu-fiction, parce que, bon, on est peut-être habitué maintenant avec ce que l'on voit à la télévision. Docu-fiction, ça nous dit tout de suite quelque chose. Hein. Alors, lui, il appelle ça docu-fiction. Bon, le terme est hybride, bien sûr. Hein, on retrouve documentaire et fiction. C'est-à-dire qu'il prend des faits réels. Comme un journaliste, par exemple, qui recueillerait un matériau donné sur un fait donné ou des faits donnés pour écrire un article. Et puis, il passe ça, si je puis dire, si je peux me permettre l'expression, à la moulinette de la fiction, quoi. Et c'est-à-dire qu'il en fait un texte écrit. Alors, avec son style à lui, avec sa méthode à lui, qui diffère, comme je le disais tout à l'heure, d'un récit à l'autre. Disons, derrière cette écriture expérimentale, enfin, ce que lui présente comme une écriture expérimentale, je reviendrai peut-être tout à l'heure pourquoi je dis ce que lui présente comme une écriture expérimentale, il y a la volonté de singer, d'imiter, de faire le pastiche de la culture dominante. Hein. Alors, lui, il y tient beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater cet élément pastiche, parce que quand le lecteur, disons, non prévenu, aborde ces 15 textes, je veux dire, on peut se poser des questions, parce que c'est tellement horrible à lire, toute cette horreur,
c'est cru, hein.
C'est très cru, c'est écrit vraiment sans phare, hein. Il ne cache pas la réalité, les mots sont là sur la page et vraiment le lecteur en prend plein la figure, si je puis dire. Et donc ce sont des textes qui pourraient rebuter un peu le lecteur non averti, parce qu'on pourrait se dire, mais après tout, c'est aussi une sorte d'hommage qui est rendu à ces gens qui découpent, qui cannibalisent leurs victimes, qui se livrent à toutes sortes de perversions sexuelles sur les cadavres et tout. Enfin, c'est vraiment d'une horreur, une horreur sans nom. Hein. Et donc, alors lui, bien sûr, quand on lui dit, mais est-ce que vous ne faites pas un peu, même sans le... même si ça n'est pas votre intention au départ, est-ce que vous ne faites pas un petit peu quand même la publicité de ces gens-là, parce que c'est un peu l'apologie de la violence. Et alors lui, il, bien sûr, dit bon, que son intention n'est pas du tout de célébrer ces serial killers, mais au contraire de montrer à l'Amérique ce qu'elle essaie de trouver dans sa propre culture populaire, c'est-à-dire les films, une autre littérature peut-être plus populaire, ce que l'Amérique, il le dit lui-même, et c'est ainsi que je l'ai traduit, ce que l'Amérique bouffe le soir à 8 heures, hein, et ce qu'elle regarde à la télévision. Et donc c'est tout à fait, selon lui, c'est tout à fait volontaire, donc délibéré, de jeter à la face de l'Amérique et de l'Américain qui regarde ces films d'horreur et qui va voir sur les sites internet de ces serial killers ce que en fait ils sont et ce qu'ils aiment. Donc il y a une volonté, voilà, exactement,
culinaire.
Et donc il y a une volonté de choquer qui est délibérée. Parce que pour lui, justement, choquer, c'est salvateur. Ça va amener les gens à réfléchir un petit peu à ce qu'ils aiment, en fait.
Alors, je me pose cette question, du coup. Est-ce que, toujours sur la docu-fiction, la fiction documentaire, est-ce que ce qui est de fiction, de fictionnel, dans ce livre notamment, est-ce que c'est seulement la technique narrative ? Puisque ce qui est dit dedans a l'air exact. Donc du coup, est-ce que c'est juste cette technique narrative qui fait que ce n'est pas un documentaire, mais une fiction documentaire ?
ça va quand même un peu au-delà. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de prendre tous les faits réels et avérés et connus sur chacun de ces tueurs en série et puis d'écrire donc une sorte de sketch biographique, hein, puisque chaque récit fait... la longueur varie, mais enfin, disons, la longueur moyenne, c'est à peu près une dizaine de pages. Il y a quand même... disons l'élément fictionnel qui intervient dans la mesure où il ajoute par exemple des personnages qui n'existent pas. Le narrateur du deuxième récit par exemple, c'est une invention de sa part, c'est-à-dire que ce personnage n'a jamais existé. Celui qui écrit au serial killer qui est en prison et qui va lui rendre visite, ce personnage n'a jamais existé, c'est sa part d'invention. Mais disons que tous les meurtres commis et ce qu'on appellerait le modus operandi de ces tueurs, c'est en fait le reflet fidèle de ce qui a été publié, de ce qui a été dit au cours des procès, parce que quand même, il faut bien le dire, la plupart de ces tueurs sont maintenant soit morts, certains de mort naturelle, d'autres exécutés, ou encore en prison, comme le dernier, par exemple, Charles Manson.
On va sortir un petit peu de 15 Serial Killer d'Harold Jaffe et on va aller vers sa revue fiction internationale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette revue fiction internationale? Vous me disiez tout à l'heure hors micro qu'elle avait eu son heure de gloire et que maintenant c'est un petit peu passé. Alors, moi, présentez-nous un petit peu cette revue fiction internationale.
C'est peut-être un peu méchant de dire que c'est un peu passé parce que le nom est très connu, bien sûr, dans les milieux littéraires ou de gens qui s'intéressent à la création et à la fiction contemporaine aux États-Unis. C'est effectivement une revue internationalement connue dont il est le rédacteur en chef. Alors, c'est une revue qui a essentiellement pour but de publier des textes de fiction, comme son nom l'indique d'ailleurs. Ce sont des textes de fiction, généralement des textes courts, nouvelles pour la plupart, qui sont donc des textes d'écrivains. On parlait tout à l'heure d'écriture expérimentale, généralement des écrivains pas ou très très peu connus. Et qui donc se voit offrir en quelque sorte une chance d'être publié déjà, et puis bon, avoir son nom dans cette revue, bon, c'est déjà une petite carte de visite pour un écrivain.
Et est-ce qu'il y a de la fiction traduite d'autres langues ?
Non. Ce sont des textes qui sont publiés en langue anglaise, dans le texte original, et donc qui sont à lire dans le texte, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction.
D'accord. Donc ce sont avant tout des auteurs américains,
Tout à fait. Oui.
D'accord.
Oui,
il y a assez peu de fiction expérimentale européenne, par exemple.
Oui, bien sûr, c'est très limité parce qu'il y a cette contrainte de la langue. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils excluent les écrivains ou les auteurs étrangers, mais il faut que le texte soit écrit dans la langue, anglaise, quoi. Donc, ce qui limite évidemment beaucoup l'accès à cette revue pour les auteurs non américains.
On a parlé d'Harold Jaffe, on a parlé de sa revue. Maintenant, élargissons encore le spectre à la littérature américaine, mais tendance expérimentale, expérimentale, c'est vrai que c'est un terme des fois qui fait peur, c'est pas un terme vendeur. Disons à la fiction exigeante, à la fiction qui cherche et qui trouve aussi et qui est peu lue. J'imagine que c'est des choses qu'on ne connaît pas en France, qui ne sont pas traduites. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette littérature expérimentale américaine?
Bien sûr. Alors, vous l'imaginez forcément, ça ne peut être qu'une vision très partielle, parce que nous, Européens, évidemment, on a l'habitude, on se plaît à se moquer un petit peu du côté inculte des Américains qui ne lisent pas, et c'est vrai. Mais ça, c'est peut-être un côté paradoxal de la culture américaine qu'on ne connaît peut-être pas assez ici, c'est que la fiction, c'est quelque chose de très vivant aux États-Unis. Il y a énormément d'écrivains. Et donc... qu'est-ce que c'est que la fiction expérimentale ? On a un premier problème qui est un problème de définition.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que la fiction expérimentale ? Je veux dire, je parlais tout à l'heure des ateliers d'écriture que pratiquement chaque université américaine offre à ses étudiants ou à des étudiants intéressés. Et donc, ces ateliers sont des fabriques d'écrivains.
Il y a eu ce débat un petit peu en France ces temps-ci, de savoir si ces ateliers d'écriture ne formataient pas justement une certaine forme de fiction.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'il y a aussi des voies différentes, difficiles, dans ces ateliers d'écriture ?
Oui, je crois que, mais comme toujours, il y a un peu tout, finalement. Alors, bien sûr, il y a des ateliers d'écriture où l'on formate un peu l'écrivain, c'est-à-dire qu'il y a un modèle d'écriture et des écrivains qui... Parce que souvent, les professeurs qui enseignent dans ces ateliers d'écriture sont eux-mêmes écrivains, comme... notre Harold Jaffe.
Oui, lui, du coup, on n'imagine pas qu'il va formater.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, tout dépend évidemment du professeur qui est en charge de cet atelier. Si on a affaire à un écrivain qui lui a une écriture, disons peut-être plus traditionnelle, et il y en a encore quand même beaucoup aux États-Unis, bien sûr, il va plutôt enseigner une écriture traditionnelle. Bon, ce sont des gens qui se reproduisent finalement à travers leurs étudiants. Si on peut dire. Mais par contre, des gens comme alors Harold Jaffe, qui est, il faut bien le dire, un écrivain quand même mineur par le retentissement qu'il a et par son lectorat aux États-Unis, mais des écrivains beaucoup plus connus que lui, Robert Coover, par exemple, qui a longtemps enseigné dans des grandes universités américaines et qui, bien sûr, enseignait aussi l'écriture. Et Robert Coover, par exemple, là, on est vraiment dans l'écriture expérimentale. Il a été un des premiers, ou en tout cas un des premiers connus, à lancer ce qu'on appelle l'hypertexte, l'écriture sur ordinateur, etc. etc. Donc, on trouve de tout. Et le mot, l'expression écriture expérimentale peut recouvrir renvoyer à des réalités très diverses. Il y a aussi un phénomène dont il faut tenir compte quand on parle de fiction contemporaine aux États-Unis, c'est l'éclatement ethnique pratiquement de cette culture. C'est-à-dire qu'on n'a plus maintenant une littérature comme on disait autrefois, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, et male maintenant, avait ajouté les féministes, on a des littératures, des fictions, puisque pratiquement chaque communauté ethnique a ses écrivains. Et alors, ce qui est très intéressant d'observer, le phénomène très intéressant à observer actuellement aux États-Unis, c'est que, prenons l'exemple de la communauté hispanique, les Mexicains, mais pas seulement les Mexicains, tous les immigrants d'Amérique centrale, les Dominicains, les Cubains, donc tous les hispanisants, c'est-à-dire tous ces immigrants dont la langue maternelle était l'espagnol, ont eu une première génération d'écrivains hispaniques publiant aux États-Unis, mais qui avaient gardé des liens très, très étroits avec leur culture d'origine. Et aujourd'hui, ce sont leurs enfants. Enfin, c'est une image, bien sûr, hein, mais on en est à la deuxième génération d'écrivains, disons, à l'intérieur de ces communautés ethniques. Et ce sont des gens qui sont nés aux États-Unis, donc qui n'ont pas connu le Mexique, la République dominicaine, Cuba, tous ces pays. Ils sont nés aux États-Unis, ils sont allés à l'école aux États-Unis, ils ont étudié dans les universités américaines. Et donc, c'est là que je crois que se passe beaucoup, pas tout, mais une bonne partie de ce que l'on appelle l'écriture expérimentale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui essaient d'inventer des nouvelles voies, parce qu'ils ne veulent pas reproduire les voix de leurs aînés, de leurs prédécesseurs, qui étaient essentiellement des voix revendicatrices, qui s'inscrivaient contre la culture dominante américaine. Et ce qui était finalement peut-être une position peut-être plus commode pour cette première génération d'écrivains, et pour les nouveaux écrivains d'aujourd'hui, d'origine hispanique, la voie est peut-être plus difficile à trouver, et c'est là que se passe justement beaucoup de cette écriture expérimentale. Inventer de nouvelles voies, voix VOIX, et en même temps que voix V-O-I-E-S pour cette écriture d'écrivains américains qui ne sont pas vraiment américains mais qui revendiquent quand même leur appartenance à l'Amérique.
Ben merci beaucoup François Happ d'être venu sur Radio Campus à cette émission de littérature, nous parler d'Harold Jaffe et puis de revue de ce qui se passe actuellement, et c'était vraiment passionnant.